L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Naïa Mathéou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation de retour, effectivement, de New York, où vous vous êtes exprimée devant la 4e commission de décolonisation de l'ONU comme citoyenne engagée et élue de la province sud. C'est comme ça que vous êtes présentée. Vous étiez en compagnie de Marie-Laure Kéoué, qui est intervenue elle aussi. Quel est le message essentiel que vous avez passé toutes les deux?
Le message qu'on souhaitait faire passer, c'était déjà de rappeler à cette 4e commission et à l'ensemble de ses pays membres que les Calédoniens s'étaient exprimés par 3 fois lors des différents référendums et qu'ils avaient maintenu leur volonté de voir la Nouvelle-Calédonie s'inscrire au sein de la République. Le deuxième message qu'on a souhaité porter, c'était plutôt un message d'alerte, notamment sur les ingérences étrangères aujourd'hui qui viennent polluer le discours et les discours en Nouvelle-Calédonie comme dans ces différentes instances. Et on l'a vu notamment avec les interventions de certains pétitionnaires qui n'avaient aucun lien avec la Nouvelle-Calédonie, si ce n'est celui avec l'Azerbaïdjan. Et puis de rappeler la nécessité d'aller au bout de ce processus qui est engagé avec cet accord de Bougival, qui correspond, comme l'indique l'ONU dans sa charte de décolonisation, à cette 4e option qui tend à permettre à la Nouvelle-Calédonie de s'inscrire dans une plus large autonomie, mais au sein de la République.
Alors ce sont des interventions très brèves, à quelques minutes seulement. Vous êtes revenu aussi sur les émeutes du 13 mai, et vous avez clairement pointé les responsabilités.
Oui, parce que c'est une démarche de rétablissement de la vérité. Et c'est en ça, lorsque je me présente en tant qu'élu engagé, c'est de rappeler cette réalité, notamment celle des conséquences du 13 mai, de rappeler aussi également que ces émeutes ont été pilotées, commanditées par la CCAT, et qu'aujourd'hui, la province sud notamment, doit en assumer les conséquences et faire en sorte de mettre en place les dispositifs les plus à même pour pouvoir continuer à aider ses administrés.
Et vous avez donc, vous le disiez, défendu l'accord de Bougival. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous parlez de 4e solution de l'ONU. Les gens ne savent peut-être pas forcément à quoi ça correspond.
Oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser, parce que justement, le fait de ne pas être présent sur les précédentes années faisait que dans l'idée collective, décolonisation égale indépendance. La réalité, elle est tout autre. Il y a 4 options qui s'offrent lorsque un pays est inscrit sur la liste des pays à décoloniser. L'indépendance, l'indépendance association, l'État librement consenti, et puis cette 4e option qui est celle qui est plus engagée sur la voie d'un consensus et de dialogue, où l'idée est de pouvoir permettre à la Nouvelle-Calédonie de pouvoir assumer pleinement son autonomie, mais au sein d'un État, et en l'occurrence au sein de la République française.
Alors il y avait d'autres pétitionnaires, on va y revenir dans un instant, mais dans votre déclaration, vous êtes directement adressé aussi aux représentants du FLNKS qui ont signé Bougival avant de retirer leur signature. Pourquoi est-ce que vous avez voulu les pointer du doigt?
C'est toujours dans cette notion de responsabiliser aussi les interventions et les prises de parole qui sont faites. On ne vient pas à l'ONU pour se faire plaisir. Aujourd'hui, on le voit, ce sont des prétextes souvent qui sont utilisés pour pouvoir dispenser de fausses informations et une fausse réalité de ce que vivent aujourd'hui les Calédoniens. Et puis, il y avait aussi cette dimension par rapport à Bougival, de rappeler aux différents intervenants de cette commission qu'il y a aussi une déresponsabilisation aujourd'hui des formations politiques, notamment indépendantistes, à ne pas vouloir aller au bout du processus. Et oui, clairement, l'idée, c'était de les mettre en face de leurs responsabilités et en rappelant aux membres de la 4e commission qui nous obligent, nous aussi, à être responsables dans nos décisions, qu'on ne peut pas demander un 3e référendum pour ensuite le boycotter, qu'on ne peut pas signer un projet d'accord de Bougival pour ensuite dire qu'on ne l'a pas signé parce qu'on n'a pas paraphé, et qu'on ne peut pas, dans un 3e temps, signer un document qui dit qu'on refuse de signer. Ça devient incompréhensible pour les Calédoniens, et vraiment cette absence de responsabilité aujourd'hui, ça me semblait important de pouvoir leur rappeler.
Alors je le disais, vous n'étiez pas les seuls pétitionnaires pour le dossier calédonien. Il y a eu plusieurs indépendantistes, et notamment des représentants de l'UNI et des représentants du nouveau FLNKS. Les représentants de l'UNI ont défendu Bougival comme vous, en fait.
Oui, au regard des différentes interventions, et j'invite vraiment les Calédoniens et les Calédoniennes à aller regarder ces différentes interventions.
Ça se trouve sur les réseaux, c'est
oui, très facile
facilement, à trouver.
Oui. J'ai vraiment senti une différence dans l'approche, justement, et c'est vrai que d'avoir nos interventions avec Marie-Laure, qui n'étonneront personne sur le fait que nous sommes pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France et que nos discours vont dans ce sens, mais d'avoir aussi ces interventions de la part des représentants de l'Uni et du Palika qui vont dans le sens de l'accord de Bougival et dans le fait de pouvoir offrir à la Nouvelle-Calédonie et aux Calédoniennes et aux Calédoniens un consensus et un dialogue, c'était un véritable tournant. Et puis c'est vrai qu'à côté, on a ces interventions... On a Oriane Trolu qui s'inscrit en tant que femme océanienne insoumise mais qui intervient au nom du FLNKS. On a Ernest Déméné qui s'inscrit en tant que représentant de l'association des bureaux de vote délocalisés qui finalement parle au nom du FLNKS. On voit bien aussi comment ces notions d'ingérence ou en tout cas la manière dont sont instrumentalisées ces prises de parole par d'autres puissances vient complètement, je considère, déresponsabiliser ce qu'est la quatrième commission et les échanges qu'on doit faire dans le cadre de ce travail de pétitionnaire, avec des discours qui sont complètement lunaires. Et encore une fois, j'invite vraiment les Calédoniennes et les Calédoniens à aller entendre ce qui se dit, que la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est remilitarisée par la France parce qu'on est sur une absence de sécurité, que la police aujourd'hui et les forces de l'ordre ont une répression à l'encontre de la population kanak notamment, que le peuple opprimé aujourd'hui, il l'est notamment en province sud parce qu'on met en place des mesures qui sont limite associées à de l'apartheid. Je ne peux pas entendre ça. C'est absolument pas ce qu'on fait. Et encore une fois, dans cette démarche de rétablissement de la vérité, c'est important, je considère, que nous continuions à aller et à rétablir cette vérité par des faits, par des données aussi très factuelles, et avec la chance qu'on peut avoir d'une jeune femme comme Marie-Laure Ukewe, qui a une légitimité aussi à s'exprimer au nom des Kanaks, on puisse continuer ce travail de responsabilisation.
D'autant plus que dans les pétitionnaires au nom du FLNKS, il y a également des étrangers, des personnes qui connaissent absolument pas le dossier, en tout cas qui n'ont jamais mis les pieds en Calédonie.
Là, ça commence à devenir du n'importe quoi, Elisabeth. Clairement, quand on entend des discours d'un ancien diplomate britannique, dont on sait après discussion dans les couloirs que la femme est azerbaïdjanaise, qui n'a jamais mis un pied en Calédonie, qui vient s'exprimer en soutien au peuple kanak opprimé, qu'on a un élu guyanais, lorsqu'on échange avec lui, qui n'a jamais mis un pied en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'on a un illustre inconnu écossais, parce que Calédonia et Nouvelle-Calédonie, ça sonne pareil, ça devient n'importe quoi.
Et alors, votre intervention et celle de Marie-Laure Ukewe, comment est-ce qu'elles sont accueillies ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les partisans du maintien dans la France sont audibles devant l'ONU ? Et quel est le déclic ? Pourquoi est-ce que ça passe mieux aujourd'hui ?
En toute humilité, je considère aujourd'hui, oui, qu'elles sont pertinentes, et on le voit notamment avec ce rapport qui sort à chaque session, où depuis maintenant 5 ans que l'on va régulièrement devant ces instances, et au-delà de ces 3 minutes, c'est tout le travail qu'on engage à chaque fois à maintenir ces différents pays membres en information de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. On voit que le rapport a changé. Et on le voit aussi notamment dans les différentes interventions. La France est reconnue comme étant exemplaire dans son processus de décolonisation. Le troisième référendum s'est tenu dans des conditions particulières, mais à aucun moment l'ONU dit que ce troisième référendum n'est pas valide. Et puis surtout, ce que l'on voit et ce que l'on a vu sur cette séquence en particulier, c'est les prises de position, notamment de Fidji, qui est intervenu au titre du groupe mélanésien Fer de Lance, mais aussi le représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont allés dans le sens du maintien du processus de dialogue au travers de l'accord de Bougival. C'est un discours qu'on n'avait pas forcément entendu auparavant. En tout cas, c'était des pays qui étaient très librement alliés et défendeurs de la cause des indépendantistes. Aujourd'hui, on sent ce revirement. C'est aussi ce travail-là qui est fait, notamment sur les différentes instances, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans le Pacifique.
Et selon vous, qu'est-ce qui les influence le plus, qu'est-ce qui les sensibilise le plus ? Ce sont les violences que l'on a connues en Nouvelle-Calédonie, ce sont les ingérences étrangères que vous avez dénoncées. C'est le fait qu'un accord a été trouvé ?
C'est un petit peu tout ça, en fait. Il y a déjà aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie sur le plan économique, et cette réalité aujourd'hui que sans la France, la Nouvelle-Calédonie ne sera pas en capacité de pouvoir se relever. C'est effectivement la question des ingérences étrangères, parce que nous sommes un petit pion à l'échelle du monde, il ne faut pas se voiler. Et le Pacifique aujourd'hui est un territoire d'enjeu, que ce soit pour l'Azerbaïdjan, que ce soit pour la Chine, que ce soit pour les États-Unis. On est un petit peu obligé de s'intéresser à ce qui se passe au-delà de ça. Et puis effectivement, il y a cet accord. Au sein des différents pays qui sont inscrits sur cette liste des pays à décoloniser, la Nouvelle-Calédonie est vraiment un fait exceptionnel dans cette démarche. On a un processus qui n'existe nulle part ailleurs. On est extrêmement regardé sur la manière dont les choses se font, que ce soit la France, que ce soit la Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'effectivement, on est très regardé parce que les autres pays ont beaucoup à apprendre de ce qui se passe chez nous. Mais nous avons, nous, cette responsabilité en premier lieu de faire en sorte que ce soit les Calédoniennes et les Calédoniens qui en retirent le maximum de bénéfices.
Alors, vous partez à New York, vous intervenez à la tribune, ça dure 3 minutes, hein, ouais, à peu près. Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Vous en profitez quand vous êtes là-bas pour avoir des rencontres, des entretiens, des échanges ?
Alors, c'est essentiel parce que, et je sais qu'il y a un gros sujet sur le fait qu'on se déplace ou autre. Je peux vous assurer que ces déplacements sont optimisés au maximum. Comme je vous l'ai dit en amont, ce n'est pas un travail sur la semaine où il y a la séquence. C'est tout au long de l'année où on maintient un niveau relationnel très important avec les différents pays, que ce soit la présidence de la C24 de Sainte-Lucie, que ce soit avec l'Indonésie, l'Inde, les pays du Pacifique, tous ces pays qui siègent au sein de cette commission. Et puis effectivement, quand on atterrit, c'est un petit marathon pour pouvoir rencontrer tout le monde, pour pouvoir échanger. Les pays membres qui nous reçoivent sont très demandeurs de comprendre quelle est la réalité, le quotidien des Calédoniens, parce qu'aujourd'hui, ils ont aussi cette responsabilité au travers de ces recommandations qu'ils mettent en place, de pouvoir eux aussi assumer ces rapports.
Et maintenant, alors, quelle est la suite du travail à l'ONU ? Est-ce que c'est utile de continuer ? Et avec quel objectif ?
Alors clairement, l'ensemble des pays et des rencontres qu'on a pu avoir nous ont maintenus dans cette volonté de pouvoir toujours être présents pour expliquer la situation. Comme je vous le disais, on vit un processus qui est exceptionnel. Et donc, il y a ce besoin de comprendre comment les choses évoluent, comment le dialogue politique se met en place et comment derrière, on vient organiser notre nouvelle gouvernance, notre nouveau statut. Donc, nous allons continuer ce travail-là. Nous allons continuer ce travail de rétablissement de la vérité et de faire en sorte que les Calédoniennes et les Calédoniens soient entendus, y compris à l'ONU, parce qu'ils se sont exprimés en ce sens.
Dans le calendrier, c'est quoi maintenant le prochain rendez-vous ? Il y en a d'autres déjà, il y a d'autres instances devant lesquelles, internationales devant lesquelles vous irez vous exprimer ?
Oui, alors on continue ce travail avec la commission C24 qui se réunit tous les ans en mai. La séquence de juin où c'est un petit peu le travail de synthèse et où on vient compléter les informations. On a eu cette quatrième commission qui s'est tenue récemment sur New York. Il y a d'autres instances et aujourd'hui on le voit bien. Je considère que parce que nous avons fait ce travail, les indépendantistes ont un peu lâché la main sur l'ONU en ayant compris que finalement le discours ne portait plus. On les voit aujourd'hui se diriger vers d'autres instances comme l'ONU, mais à Genève, où on parle des peuples autochtones. Si c'est un travail que nous devons faire pour rétablir la vérité, nous serons là et nous le ferons.
Et vous avez l'impression quand même que l'image de la Calédonie aujourd'hui devant l'ONU a changé, a été métamorphosée en quelques années.
Oui, vraiment, les rapports en ce sens ont vraiment changé sur la manière dont la France, en tant que puissance administrante, organise son processus de décolonisation et comment la Nouvelle-Calédonie, en responsabilité, s'inscrit dans cette démarche de sortir de l'accord de Matignon, qui était un accord de paix, sortir de l'accord de Nouméa, qui était un accord de reconnaissance de l'identité kanak, et aujourd'hui avec Bougival, sur cette volonté de pouvoir reconstruire et relancer le pays.
Naya Ouattéouf, merci d'accepter notre invitation ce matin.
Merci.